Donc on prend la page 48, comme Monsieur Benichou qui est né en 48, hein, c'est ça?
Hazak!
Il est né comme en Israël.
900. Alors.
J'aurais bien voulu.
Ok. Donc on est dans le Halleluka. Voilà. On s'est arrêté à la page 48, à la quatrième ligne de la page 48. Vaya midem la dleolam chok natan velo yavor. Donc je fais un rappel, bref, rapide, de ce qu'on a expliqué déjà depuis le début du Ashrei. On a expliqué que depuis le début du Ashrei Yoshevetecha, donc dans ce qu'on appelle les psukei des Imra, David Ameler, il va analyser le monde qui est autour de lui. Il va d'abord commencer par analyser sa propre personnalité et le monde qui est autour de lui en allant en crescendo, d'accord, en élargissant le cercle de plus en plus, voilà, savez-vous, et au travers de la nature, au travers de ce qui l'entoure, il va retrouver des raisons pour lesquelles on doit constamment remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qui nous entoure. C'est bon, tout le monde est là? Allez, messieurs, on y va. D'accord. Donc on a commencé par le Ashrei. Dans le Ashrei, qu'est-ce que David Amelech a analysé? Il a analysé son propre comportement, sa propre famille. Dans le Halleluka suivant, David Ameler a analysé le cercle restreint de ses amis et de sa famille, de ce qui l'entoure. C'est-à-dire, là, c'est plus sa propre personne, mais c'est ce qui l'entoure. D'accord? Dans le Halleluka suivant, David Ameler a commencé à analyser la nature. Mais la nature proche. La nature proche, ça veut dire, ben, la pluie, la neige, les animaux domestiques et tout ce qui nous entoure. D'accord? Donc là, on a déjà élargi le cercle. Et dans le Halleluka, qui est dans la page 48, qu'on a démarré dans la semaine dernière, voilà, Halleluka Tachem Min HaShamayim, là, il a commencé à analyser le ciel. Donc là, il va encore plus loin. Il va analyser ce qui est inaccessible, ça veut dire le ciel, les anges, etc. C'est bon. C'est tout ce qui est infiniment grand. D'accord. Donc on s'est arrêté à Vaya Midem, là, l'Olam, Rok, Nathan, Velo, Yahavor. Allez, messieurs, on en est dans le site, on prenait page 48, Travod. Voilà.
La disposition des psukei des Imra.
Bien sûr, il y a un ordre.
Oui,
mais très clair.
C'est pas David Ameler, c'est Neshet Hagdola.
La disposition C'est pas très clair, c'est une autre question, ça. C'est une bonne question. La disposition du Tehilim en général.
Non, même pas.
Non, ça, c'est la même disposition que le Tehilim, ça. C'est la disposition du Tehilim en général.
Oui, mais ils ont fait une sélection de ça et pas de ça.
J'ai compris. Bon, c'est le Neshet Hagdola. Ok. Ouais. Donc, Vayam Idem, Laad Leolam, Chok Natan, Velo Yahavor. On s'est arrêté là. Ici. Hallelu et Hashem in Haaretz. Vous avez Hallelu et Hashem in Haaretz, quatrième ligne? Alors, on y va. Hallelu et Hashem in Haaretz, louez Dieu de la terre, Taninim, Vechol Teomot. Donc, rappelez-vous, de quoi est en train de parler David Ameler? David Ameler est en train de parler ici de l'inaccessible. Dans l'inaccessible, on a parlé du ciel. On a parlé des anges. Et il parle également de Taninim. Alors, c'est quoi les Taninim? D'accord? Taninim, c'est les grands poissons qui se trouvent dans la mer. Donc, bien sûr, qu'ils sont inaccessibles.
Baleine.
D'accord? Les baleines, par exemple. Vechol Teomot, et de manière générale, c'est quoi le Tehom? Tehom, en hébreu, on sait c'est quoi le Tehom. On l'a vu dans la Parasha Bereshit. C'est quoi le Tehom? C'est l'abîme. D'accord? Et donc, Vechol Teomot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que David Ameler a dit que moi, quand j'analyse même une baleine, ou même, ne serait-ce que l'abîme, ça me montre comment Akadosh Baruch Hu est tellement grand. Et continue. Esh, Uvarad, Shelek, Vekitor. Et il dit, quand j'analyse un peu plus loin, hein, je vois que j'ai même pas besoin d'arriver jusqu'à l'inaccessible, mais que même ce qui nous entoure finalement est inaccessible. Par exemple. On va prendre par exemple le feu. Le feu pour nous, c'est quelque chose de basique. Mais quand on sait la puissance que peut avoir le feu, on comprend que même le feu en vérité est inaccessible. Il a eu la même conclusion pour Barad. C'est quoi Barad? Barad, c'est la grêle. D'accord? Donc Barad, c'est la grêle, c'est l'inverse du feu. Ça veut dire que le feu va détruire par le chaud, la grêle va détruire par le froid. Non, mais c'est le froid. C'est le froid. C'est le Barad, d'accord?
C'est une glace.
C'est une glace.
Les glaces, ils en font un
Barad. Très bien, donc c'est une glace. Ça veut dire, encore une fois, il a dit, les gens pensent que où est l'inaccessible? L'inaccessible se trouve uniquement au fin fond du ciel ou au fin fond de la mer. Il dit, mais attends, je suis arrivé à la conclusion que non. Esh ou Barad? Pourquoi on doit arriver jusqu'à là? Le feu. Ne serait-ce que le feu qu'on utilise tous les jours. Ou l'eau qu'on utilise tous les jours. Ça aussi, c'est inaccessible. On croit que c'est accessible, mais en vérité, c'est inaccessible.
Quel rapport le pouvoir de destruction avec ce qui n'est pas accessible? Je comprends pas.
Ben, ça veut montrer qu'en vérité, il y a un pouvoir qu'on ne doute pas.
Ah, il y a un pouvoir.
Qu'on ne doute pas. Et qu'au travers de ce pouvoir, David Ameler se rappelle de la puissance d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière, Sheleg Vekitor. Alors, Sheleg, c'est la neige. Donc, la neige, c'est froid. Et Kitor, c'est quoi? Kitor, c'est les vapeurs qui montent de la terre. Donc bien sûr, c'est chaud. Donc c'est des choses comme ça que David et Melchizedek, c'est des choses qui nous paraissent basiques, et c'est des choses qu'on peut voir tous les jours. Et pourtant, quand on réfléchit, on voit comment Akadosh, comment on retrouve ici la puissance extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Ruach Sehara Osa Devaro. C'est quoi le point commun entre toutes ces choses que je viens de dire? La neige, la grêle, d'accord, le feu, etc. C'est que tout ça, c'est des choses qui sont en train de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme le Ruach Sehara. Ruach Sehara, je sais que c'est un proverbe que les Marocains utilisent beaucoup, Ruach Sehara. Ruach Sehara, ça veut dire une tempête. On dit quand la tempête elle décide de venir, elle fait tomber, comme a dit la Gemara, elle fait tomber des bateaux, elle fait tomber des cèdres, elle fait tomber des constructions, elle fait tomber ce que tu veux. Quand le vent a décidé de taper, c'est fini. Tsunami. D'accord? Donc c'est ça, c'est le tsunami. Ruach Sehara. Et tout ça, ils font quoi? David Amelach dit, je suis arrivé à la conclusion que tout ça, ils font que seulement que Osa Devaro. Ils font la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne font que seulement accomplir un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez? Et là, donc, il comprend comment en vérité Akadosh Baruch Hu, il y a une puissance extraordinaire. Et donc, il essaye de s'inspirer. Heharim v'chol gevarot. De la même manière. Heharim v'chol gevarot. Il va parler maintenant de la terre. D'accord? Alors, jusqu'à présent, de quoi on a parlé? On a parlé du feu. On a parlé de l'eau. C'est quoi les quatre éléments avec lesquels on fonde la terre, avec lesquels la terre est fondée? Esh, Ruach, Maim, Afar. Donc, je veux commencer. Le premier, c'est le feu, on en a parlé. Le deuxième, c'est le vent, on en a parlé aussi. Le troisième, c'est l'eau, on en a parlé aussi. D'accord? L'eau, on a dit, par exemple, la neige, on a dit la grêle, d'accord? Maintenant, lequel il nous manque? La terre. C'est quoi la terre? La terre, c'est ce qu'on va dire tout de suite. Heharim, Vechol, Gevarot. C'est les montagnes. Vechol, Gevarot, et toutes les collines qui nous entourent. Donc, les montagnes et les collines, tout ce qui nous entoure, ça, c'est la terre. Et donc David Amelach a expliqué, il a dit que, alors en quoi ça l'impressionne une montagne? Qu'est-ce qui impressionne dans une montagne?
La route, l'éternité.
D'accord? Alors écoutez bien, la Gemara nous dit la chose suivante, que dans chaque endroit dans lequel il y avait une possibilité que le Tehom, que l'abîme se soulève, Akadosh Baruch Hu a mis une montagne. C'est une manière de dire, même si ça va se soulever, ça sera certainement dans une montagne. Alors aujourd'hui, on sait que ça veut dire quoi l'abîme qui s'élève. Aujourd'hui, on sait que c'est les volcans. D'accord? Et la Gemara a dit que dans chaque endroit dans lequel Akadosh Baruch Hu, il savait qu'il y avait un plus grand risque, donc d'éruption volcanique, comme on appelle ça aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu a mis des montagnes. Comme ça, dans la majorité des cas, l'éruption va se passer à l'intérieur de la montagne. Et ça, c'est la Gemara qui le dit. La Gemara qui le dit en commentaire sur le Ehari v'chol gevarot. D'accord?
C'est pas tout à fait ça, les...
C'est quoi?
Sur des montagnes, ce sont des plaques tectoniques.
Non, j'ai pas dit, attention.
Il n'y a pas que des montagnes entre les continents.
J'ai dit que, ce que je vais expliquer ici, c'est que David Amelach a dit que les endroits dans lesquels Akadosh Baruch Hu a mis une concentration de montagnes, c'est les endroits dans lesquels Akadosh Baruch Hu savait que c'est là-bas qu'il fallait concentrer les éruptions volcaniques. D'accord? C'est pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu...
Les volcans sous-marins, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a plein.
Tu as raison. Ouais. Mais ça ne nous dérange pas.
Oui. Ouais. Voilà. Pour ne pas déranger l'homme.
Pour ne pas déranger l'homme. Voilà. Et donc, Yehalelou et Hachem. Quoi?
Ça dérange un petit tsunami de temps en temps.
Ça veut dire ça. C'est une Xera.
C'est
une Xera, un tsunami. Vous croyez, c'est une Xera.
C'est vrai que des fois, il y a des éruptions et des tremblements de terre sous-marins et il ne se passe rien.
Il n'y a pas un instant qui passe sans qu'il n'y ait pas d'éruption volcanique. Vous savez ça?
Oui,
bien sûr. Bon, c'est clair. Hein. Il n'y a pas un instant qui passe.
Il y a des milliers de volcans sur la
planète. Voilà. Et pourtant, on sent rien. Enfin, on sent rien. Ça ne nous dérange pas. Ça n'affecte pas notre vie. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu les a concentrés dans les montagnes, etc. Et ça a arrangé pour que ça nous dérange le moins possible. Maintenant, bien sûr, après, il y a des xérodes à Kadosh Baruch Hu. Et ça, encore une fois, David Amelach réfléchit à ça pour comprendre la complexité de la nature, et donc pour comprendre au travers de cette complexité, le fait qu'on doit toujours remercier à Kadosh Baruch Hu. Et continue. Donc, Etz Peri Vechol Arazim. D'accord. Donc, il analyse également Etz Peri Vechol Arazim. Donc, maintenant, on va parler maintenant, progressivement, David Amelach va analyser. Donc, on a dit, dans le monde, il y a quatre choses. Il y a Esh, Ruach, Maim, Afar. Il y a le feu, il y a le vent, il y a l'eau et il y a la terre. D'accord. Maintenant, tout ce qui vit sur la planète est composé également de d'eux-mêmes, Tsomea, Chaim et Daber. On a également quatre catégories. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. D'accord. Alors, le minéral, on vient d'en parler.
Et le juif, non?
D'accord. Jusqu'à présent, attends. Le minéral, on en a parlé. On a dit, par exemple, voilà, le minéral, on avait, donc l'eau, par exemple, etc., quoi, les montagnes, la terre, etc. Le végétal, on vient d'en parler, Etz Peri Vechol Arazim, donc les arbres fruitiers, et tous les arbres qui ne sont peut-être pas fruitiers, mais qui ont forcément quelque chose à tirer, comme par exemple, le Erez. Le Erez, c'est quoi le Erez?
Un cèdre.
D'accord, le cèdre. Très bien. Et donc, du cèdre, c'est un arbre qui n'est pas fruitier, mais duquel on a quelque chose à tirer. Donc là, du minéral, on est passé au... Allez, messieurs, on se réveille. On dort aujourd'hui, là. Alors, du minéral, on est passé au végétal, d'accord. Après, on continue. Après, qu'est-ce qui nous manque encore? Donc, on a dit le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Très bien. Hachaya vechol behema. Voilà, l'animal est ici. Donc, on a hachaya vechol behema. Donc, le chaya, c'est les animaux sauvages. D'accord? Et vechol behema, c'est les animaux qui sont domestiques. D'accord? Remes, vestipor, canaf. Les reptiles, vestipor, canaf, et ainsi que tous les oiseaux qui volent. Bon, alors ça, je ne vais pas revenir dessus, mais la Gemara Brachot explique pourquoi il a employé particulièrement ces termes. D'accord? Ça veut dire, pourquoi il a dit « Ha-Khaya, V'chol Behema » et comment dans chaque chose, il faisait allusion à un événement qui allait se passer plus tard. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter sur ça.
Où est le verbe, là?
Où est le?
Au il y a début. Des sujets.
Il y a
parle
que...
de quoi? De ces... Non,
c'est qu'il analyse, l'animal.
On est dans « Alekou », on est dans le mange d'Akadosh Baruch Hu.
Bien sûr, bien sûr. Il analyse, on a expliqué... Numéro 1, il analyse le feu, Esh, Ruach, Maim, Afar. Ça veut dire le feu, le vent, d'accord, l'eau et la terre. Ça, c'est les quatre éléments.
Au début, on avait dit qu'il trouvait dans ces éléments-là voilà. le Kohar d'Akadosh Baruch Hu.
Exactement.
Maintenant, qu'est-ce que ça vient nous apprendre, ce Achaya, Vechol Behema?
Là, pour rien. On en a déjà parlé, des animaux. On a déjà parlé avant des animaux.
Donc là aussi, il trouve dans l'Akadosh Baruch
Hu. Non, là, il est en train de structurer la nature, d'expliquer la structure de la nature. Que dans la structure de la nature, on a notamment, il y a un ordre. C'est quoi l'ordre de la nature? On a le minéral, on en a parlé longuement, le végétal, d'accord? Le végétal, ben on a dit donc le végétal c'est les arbres, d'accord? Donc les arbres, la beauté des arbres, etc.
Les arbres fruitiers.
Maintenant, les arbres fruitiers et non fruitiers, et après on avait l'animal, d'accord? Bon. Alors, bon maintenant puisqu'il a posé la question, je vais répondre brièvement. C'est la Gemara Brachot, mais je voulais pas rentrer dedans. La Gemara Brachot a dit que dans chacun des éléments que le roi David a dit ici, il fait appel à un événement qui va se passer. Par exemple, lorsqu'il dit Achaya, de quoi il parle ici? Il parle d'un animal qu'on appelle le tahash. C'est quoi le tahash?
Celui dont on a la peau
pour faire le mishkan. Et donc quand il dit Achaya, c'est avec un ré, c'est celle-ci. D'accord, il dit pas les animaux, il dit Achaya. C'est un animal sauvage qu'on appelle donc le tahash. Je ne sais même pas comment on l'appelle. On a un nom en français?
Non, parce que
c'est un animal qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un animal qui a existé et qui a existé que pour ce moment-là. Et qu'après, du coup, c'est une race qui était perdue parce qu'elle existait que pour le Mishkan et le Beth Amikdash. Donc on a le Tahash. Quand on dit sur Kol Behema, tous les animaux, de quels animaux on parle ici? Les animaux avec lesquels on va faire les korbanot. D'accord? Et donc, bon, je ne veux pas rentrer dans chaque détail, mais dans chaque détail, David Ameler, il pense à quelque chose qu'on va utiliser pour le Kavod d'Akadosh Baruch. Je ne vais pas rentrer dedans, je pense que j'ai dit.
Il y a reptiles dans les...
Les reptiles, la Gemara a dit que... Bon, il m'énerve, hein.
Bah, si tu le sais, dis-le.
La Gemara va pas te dire... Ah, parce que après, ça...
Mais t'es raisonnier.
La Gemara va te dire que chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il s'énerve sur le monde et qu'il a envie de détruire le monde, il regarde les reptiles, et il a pitié des reptiles, il dit, regarde les reptiles, comment ils souffrent, les pauvres, et il se calme. C'est la Gemara. Et donc ça, le roi David a pensé aussi à ça. Bon, alors, on continue. Maintenant, on va passer à l'homme.
Oiseau ailé. Il y a des oiseaux qui ne sont pas aidés.
Est-ce qu'il y a des oiseaux?
Bah, l'autruche, par exemple.
C'est une répétition.
Ah, elle a des ailes, l'autruche. Non, mais elle ne vole pas.
Elle ne vole pas. 60 km à l'heure, elle court.
Elle ne vole pas.
Oui. Mais elle a des ailes.
Oui.
Ça ne veut pas dire qu'elle vole. Elle a des ailes.
Bonne question, je ne sais pas.
Elle a des ailes.
C'est vrai, là.
On parle pas de voler.
C'est un pléonasme.
On parle pas.
Non, pas du tout un pléonasme. L'avion, il vient.
L'oiseau, il vole. Elle a des ailes.
Parce que l'oiseau, c'est... Ça,
elle a des
ailes. Il y a 30 caractéristiques. C'est le bec, l'œuf et les ailes. Ouais. On dit elle les. Donc, voilà. Les reptiles font des œufs. Ils n'ont pas d'ailes. Ils n'ont pas de bec. Donc,
le kiwi, ça, qu'on a littéralement...
C'est pas tous les œufs qui ont des ailes? Il y a des œufs qui n'ont pas d'ailes?
Bah oui, l'autruche. Enfin, c'est... Tu peux pas
considérer.
C'est des pattes. C'est pas des ailes.
Bah, le pingouin.
Non, non. Ça vaut pas. Elle a des ailes, l'autruche.
Des ailes. Des ailes.
Il y a...
Qu'est-ce que c'est? Des ailes.
Des ailes. Des ailes.
Ah, hélas.
Ok, alors on continue.
Elle volait, non.
Maintenant, elle continue, il va analyser. Allez, messieurs, on y va. Alors.
Très vite.
Donc, puisqu'on a expliqué que David Ameler a analysé ça autour du Mishkan et du Beth Amikdash, puisqu'on est dans la paracha du Mishkan, on a la paracha Kekoudé, d'accord? Donc, on a dit que quand David Ameler, il analyse un animal, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on a fait avec cet animal pour le Beth Amikdash? quel anim... on a utilisé le tachash, qu'on a utilisé les animaux pour offrir les sacrifices, que même les oiseaux ont offert au Beth Amikdash. Même les oiseaux ont offert au Beth Amikdash. D'accord? Après, il continue. Malche Eret, Vechol Leumim. Maintenant, on va passer à l'homme. Donc, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Mais attendez. Quand on arrive à l'homme, de qui on va parler en priorité? On va parler des rois. De quel roi on parle ici? D'accord? Alors, la Gemara explique qu'on parle ici des Ein Sarin, des 70 princes. Vous savez que pendant la fête de Sukkot, on offre en tout 70 sacrifices. D'accord? En allant en dégradant, c'est-à-dire le premier jour 13, 12, 11, etc. Pour arriver à la fin un total de 70 sacrifices. Pourquoi 70 sacrifices? C'est explicite dans la Gemara. On dit que 70 sacrifices correspondent aux 70 nations. Ça veut dire que le Ham Israël, on a un poste de responsabilité, pas seulement pour nous, mais pour l'humanité en général. Et donc c'est pour ça que David HaMelech dit que Malche Eret Vechol Leumim. On pense donc au roi du monde, Vechol Leumim, mais ces rois correspondent et représentent Kol Leumim, toutes les nations. Parce que c'est des rois qui représentent toutes les nations. Même les nations qui n'ont pas de roi. D'accord? Pourquoi? Parce que ça n'existe pas une nation qui n'a pas de roi. Toute nation a un sar, un prince qui la représente. Qui la représente chaque Kadosh Baruch Hu. Sarin Vechol Shoftei Haaretz. Maintenant là, on passe déjà au prince physique. Prince physique, Kol Shoftei Haaretz, donc tous ceux qui vont diriger la terre. Alors pourquoi on les a passés en priorité? Parce qu'on part de la base que si une personne a un poste de responsabilité en bas, même si c'est un dictateur, ça veut dire qu'il a une force particulière. Et ça veut dire que sa neshama, si on peut appeler ça comme ça, a une force particulière. Maintenant après, il en fait ce qu'il veut. S'il décide d'utiliser ça en mal et devenir dictateur, c'est ses affaires. Mais si concrètement Kadosh Baruch Hu l'a mis dans un poste de responsabilité, ça veut dire qu'il est chauffette à arrêt. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir de juger, il a un pouvoir de maîtrise, il a un pouvoir de responsabilité. Et c'est pour ça qu'on les a mis en priorité. On les a mis en priorité quand David HaMelech analyse, parce que lui-même est roi, il comprend ce que ça veut dire. Il sait très bien ce que ça veut dire, qu'un roi peut utiliser son pouvoir en mal, comme en bien, mais ça veut dire que s'il est au top, ça veut dire qu'il a un pouvoir particulier par rapport aux autres, et que sa neshama, il a en lui une force extraordinaire. Ensuite, il continue. De qui il va parler juste après? N'oubliez pas, d'abord on a parlé des rois, c'est les plus forts. Tout de suite après de qui il parle? Bachorim ve Gambetulot, il parle des jeunes. Pour ceux qui étaient là Shabbat, de cours que mon père a fait, il nous a fait une dracha sur les jeunes. On voit que les jeunes,
c'est pas les jeunes,
c'est les jeunes.
Non, les jeunes c'est après.
Attendez.
Les princes, d'abord, et les juges.
Non, c'est les jeunes hommes. Les jeunes hommes.
Les
jeunes hommes, d'accord. Alors, attendez. Bahurim, Vegam, Betulot. Les jeunes hommes et aussi les jeunes filles. Pourquoi et aussi les jeunes filles? Pourquoi il dit pas les jeunes hommes et les jeunes filles? D'accord? De là, le Sefer Hassidim apprend que c'est pour nous apprendre ici que les jeunes hommes et les jeunes filles doivent pas être mélangés. Enfin, c'est un remède, bien sûr, on le connaît déjà. Et Bahurim, Vegam, Betulot. Ça veut dire les jeunes hommes et aussi les jeunes filles. Ça veut dire qu'il y a les jeunes hommes d'un côté et les jeunes filles d'un autre côté. C'est à part. Bahurim, Vegam, Betulot. Zekenim, Imnearim. Les anciens, d'accord? Avec les Néharim. Alors c'est quoi les Néharim? Alors c'est quoi la différence entre un Nahar et un Bachour?
Avant 12 ans,
d'accord? Hein, c'est très simple. Le Bachour, c'est un jeune, mais qui est actif et qui agit en bien. Le Nahar, c'est un jeune en crise d'adolescence. C'est ça le Nahar, d'accord? Le Nahar. Même d'ailleurs en Yiddish, on dit ne sois pas un Nahar. Un Nahar, ça veut dire, comme on aurait dit un Khmar en arabe. D'accord? C'est un Nahar. C'est un adolescent. Ouais, maintenant, vous comprenez qu'il y a des gens qui sont adolescents toute leur vie, qui ont leur crise d'adolescence toute leur vie, et il y a des gens qui sont mûrs très jeunes. Et donc, ça veut dire qu'on parle pas de l'âge ici sur le passeport. Donc, c'est quoi les trois catégories qu'on a citées dans l'humain? On a dit tout d'abord les rois, c'est-à-dire ceux qui ont un poste de responsabilité, qui forcément ont un pouvoir extraordinaire, numéro un. Numéro deux, c'est les jeunes, qui font bouger les choses. D'accord? Et numéro trois, c'est les vieux qui vont venir avec les gaffeurs. D'accord? Donc on a mis toutes les quatre catégories.
On parle pas des filles.
D'accord?
Des garçons.
Des garçons. Ouais. Hein, apparemment, on connaissait pas.
ici, il parle des princes et des juges.
Oui.
Alors.
On a dit.
Après
les rois, on a les princes et les juges. Mais on a dit que la différence, c'est que les rois, c'est les rois qui nous représentent en haut. Alors que quand on dit les princes et les juges, c'est déjà les princes et les juges sur terre qui nous représentent en bas. Et que le fait qu'ils ont un poste de responsabilité, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu leur a donné un pouvoir particulier.
On rattache les Oumim avec les Sars d'en haut parce qu'il y a des peuples qui n'ont pas de roi physique.
Oui, bien sûr.
Sinon on les aurait rattachés au roi
physique. Oui, bien sûr, exactement. Parce qu'il y a des peuples qui n'ont pas de roi. C'est pas fort. Il y a pas, soit qui n'ont pas de roi ou soit qui n'ont pas de direction.
De juge
quoi. C'est-à-dire c'est la pagaille, c'est l'anarchie. Mais pourtant, il y a quand même quelqu'un qui le représente en haut, toujours. Sinon, ça tiendrait pas. Alors, David HaMelech, il dit, tout cela qu'on a dit maintenant, Yehalelu et Shem Hashem. qui est Hutsila Venivra. Alors, en passant, juste une petite note. Comment ça se fait que c'est particulièrement chez les jeunes qu'on nous a rappelé le fait que les jeunes hommes ne doivent pas être mélangés avec les jeunes filles? D'accord? Alors il dit c'est très simple. Il dit parce que c'est à l'époque des c'est les jeunes hommes et les jeunes filles, ils ont le feu qui brûle, ils ont un feu qui brûle en eux. Comme ils ont un feu qui brûle en eux, quand le feu brûle, c'est là que le Sahara il peut faire des catastrophes. Mais après quand on a vieilli, c'est déjà moins grave.
Ouais, ça peut brûler, mais...
Ça peut brûler, mais c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est quand on a les barourim, c'est les gens qui sont chauds, on dit attention. Les jeunes hommes ici, les jeunes dames ici. D'accord.
Avec l'allongement de la durée de la
vie. Maintenant, on peut être jeune toute la vie, mais bon. Yéhalélu et Tchem Hachem. Sur le plan pharmaceutique. Alors, Yéhalélu et Tchem Hachem, qui est où tu vas, qui n'est ce gars chez moi, les vados. C'est ça, c'est vite.
C'était David
Avenir
qui...
Oui. Ah, bien sûr.
Ouais, c'était l'exemple.
Dis-moi, c'est une comédie musicale, ce Tehillim là.
Ah, c'est grave.
Tu peux visualiser. Tout le monde.
Tout le monde est là. Ah, ouais, c'est là. Moi, mais tu sais que le roi David Avenir, il avait énormément d'imagination. Quand on voit les mots qu'il avait ici, les poèmes qu'il avait ici, c'est-à-dire là, je le vois bien dans sa tête, s'imaginer tout ça autour de lui. Extraordinaire. C'est une imagination extraordinaire. Alors, donc, Yéhalélu Hachem Hachem, Kinisgav Shemo Levado. Et tout cela, tout ce qu'on a expliqué ici, donc on a fait le tour de tout maintenant. Quand on a vu le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, le feu, le vent, l'eau, la terre, on a fait le tour de tout. Et tout cela ensemble, en cœur, Yéhalélu Hachem Hachem, ils vont louer le nom de Dieu, Kinisgav Shemo Levado, car Akadosh Baruch Hu, son nom est plus haut que tout, c'est Akadosh Baruch Hu et Levado. Et il survole tout ça, il est tout seul. Hodo al Eretz Veshamaim, sa gloire est visible dans le ciel et dans la terre. Ça veut dire que tout le monde est capable de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le chidouche. C'est qu'il y a des gens qui pensent que la présence d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a que les gens qui sont en haut qui peuvent la voir, ou que les gens qui sont déjà morts. Mais ceux qui vivent, ils ne voient pas la présence d'Akadosh Baruch Hu. Non. Hodo, la gloire d'Akadosh Baruch Hu, celui qui veut la chercher. Al Eretz Veshamaim, elle est là, elle est présente, elle est ici. Il suffit d'ouvrir les yeux, on peut la voir. Vayarem, Keren, Lehamo. Et là, on arrive à ce que David a dit tout à l'heure. Hein, David, notre ami David. Vayarem Keren Lehamo. Maintenant, dans tout ce manège, dans tout ce cœur, d'accord, Akadosh Baruch Hu donne une place particulière, Lehamo, à son peuple.
Ouais,
d'accord. Il va donner une place particulière à son peuple. Ouais. Et il va dire, vous, je vous mets dans une place particulière dans tout ce concert. Tehila, Lechol Chassidav. Et Akadosh Baruch Hu va louer donc tous ses chassidim, ça veut dire tous ceux qui croient en lui. L'Ivne Israël, Am Kirovo Aleluka, puisqu'il n'oublie jamais que les Bnei Israël sont le Am Kirovo, ce sont son peuple qui est Karov, qui est proche de lui. C'est-à-dire qu'il est proche de lui. Ça veut dire que d'abord il nous aime, et ça veut dire aussi que nous on l'aime. Donc on est proche. D'accord? Et ça, Kadosh Baruch Hu ne l'oublie jamais. C'est la conclusion de ce Halleluka, de l'analyse de David Ameller. Voilà. Ça reste ici pour
c'est important,
tout est très important.
Non, mais moi, je suis là, on est lié directement à Kachat.
Là, c'est, moi, je me, il y a, c'est un concert, voilà, c'est un concert. C'est
48 en plus.
Ah ouais, c'est une comédie.
C'est musicale, le concert, grave. Et après, à la fin, tu vois, t'as la star qui sort, Sam Israël.
Magnifique. On m'a dit que ce passage-là, quand on lit ce passage-là, on est lié directement avec Kachat.
Alors, on est lié directement avec Hachem, tous en fait.
Mais particulièrement celui-là.
Celui-là.
Celui-là que tu as...
Le dernier petit Frazak.
Frazak.
Alors je me rappelle d'un...
Kouni, voilà.
Un truc de Rav Zinoviev.
Bon, attendez, alors, juste deux secondes. Bon, Bezrat Hachem. Bezrat Hachem maintenant, dans la suite. Donc dans les deux Halleluka qui nous restent. Le Halleluka suivant, il va nous parler de l'époque de Mashiach. C'est le futur. C'est-à-dire que là maintenant, pour le présent, on a fini.
D'accord.
Ça y est, le concert, il a déjà analysé le concert. Donc maintenant, il nous faut le futur. Où on va?
C'est le rappel.
D'accord, ça c'est le rappel où on va. Donc ça c'est le suivant, d'accord. Et après dans le Halleluka suivant, on aura encore un autre petit concert pour terminer avec 13 louanges à Kadosh Baruch Hu. Et on expliquera à quoi correspondent Bezrat Hashem ces 13 louanges qui correspondent aux 13 midot à Kadosh Baruch Hu. Mais ça c'est déjà pour la semaine prochaine et peut-être même la semaine d'après. Voilà.
Avec,